Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tant qu'on perd pas, on est content, mais tant qu'on gagne pas, on n'est pas heureux.
I will finish now and I will go to IKEA, Conforama, to help my wife to choose the things.
Bah, Olivier Carpin, un match de Coupe d'Europe africaine. Ah, oui.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue sur RMC en direct et également sur la chaîne YouTube, comme tous les soirs de l'after, after-foot, vous écoutez l'after, premier podcast de France, votre espace de liberté à vous les supporters. Au 32-16, on vous attend, Walid Acharchour est là, salut Walid.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et Daniel Riolo, salut Daniel.
Bonsoir les amis, et finalement on n'a jamais résolu le problème de Walid et des matchs de Coupe d'Europe africaine.
Si, j'en regarde un peu plus depuis.
La Coupe d'Europe africaine.
Et parce qu'il avait, je crois que sur le jingle, il avait... C'était un débat sur la Super League africaine. Je crois que c'était ça.
Ah c'est ça.
Ouais, tu voulais défendre ta Super League.
Qui a gagné la Ligue des Champions africaine là récemment?
Et la Ligue, hein.
C'est ça.
Ouais.
Et la deuxième, la Coupe de la CAF.
L'Europa League africaine.
L'Europa League africaine.
Coupe de la CAF, j'ai un doute.
Un club marocain.
Le
Berkane.
Berkane.
Non, d'accord. C'est pas Berkane, c'est Zamalek.
Zamalek.
Ouais.
D'accord, non, j'avais pas la deuxième.
L'événement ce soir dans l'after, vous le savez, c'est l'Euro qui commence demain soir. Les Drôles de l'âme seront là dans une heure avec toutes les dernières infos, infos allemandes, italiennes, espagnoles et anglaises, évidemment, avec les Drôles de l'âme et puis l'équipe de France également au programme. Là aussi, on a quelques infos à vous donner de dernière minute, notamment concernant la défense. Et puis, afin de se donner un peu d'espoir, on reviendra 40 ans en arrière, quand la France gagnait l'Euro en 84. Maxime Bossis sera avec nous dans quelques minutes. Il était le grand défenseur français de l'époque. Et il sort un livre qui raconte sa carrière. Ce sera dans une grosse demi-heure. Tout ça sans oublier l'actu du jour à Marseille, avec l'arrivée surprise de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM. C'est tout de suite 32-16, supporters marseillais, on vous attend. Le 32-16 est ouvert, direct studio également. L'after est avec vous jusqu'à minuit. Oui, je disais surprise De Zerbi, parce que encore ce matin, sur RMC Sport, je lisais un papier... où Balanxar nous expliquait la méthode Conceição. Voilà.
Ça va vite le foot.
Et deux heures plus tard, Florent Germain nous envoie un mail. Ouais, De Zerbi, ça va se faire. Une heure et demie plus tard,
ça c'est parce que tu suis pas mon compte Twitter.
Une heure plus tard, Florent Germain revient et nous dit attention, il y a quand même une indemnité à régler avec Brighton. Mm-hmm. On parlait alors de 6 millions. Et puis on a eu ensuite d'autres infos, Walid, sur cette histoire.
Oui, l'indemnité, ils sont en train de négocier au rabais l'indemnité. Ils travaillent dessus. Roberto De Zerbi a donné son accord et ils sont d'accord sur beaucoup beaucoup de choses entre les dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi, c'est le plus important. Et ils sont en train de négocier sur cette fameuse clause pour essayer de la baisser, parce qu'il y a une clause à payer pour Brighton. Donc ça va dans ce sens et c'est très bien engagé.
Alors chacun va donner son avis quand même. Je rappelle juste
que ça même.
De quoi ?
C'est plus que bien engagé.
Oui, on peut dire ce soir que c'est quasi fait.
Ce qui s'est passé cette semaine est quand même assez stupéfiant et au final assez excitant pour l'OM.
Bah oui.
Ils étaient réellement en train de traiter Conceição, donc l'interview que tu dis de Malangsar, elle est totalement justifiée et intéressante, parce que réellement Conceição était pas loin de dire oui, sauf que les tergiversations ont commencé à agacer les dirigeants marseillais, même si quand t'es agacé, mais que tu peux quand même peut-être avoir Conceição et que t'es pas sûr d'avoir beaucoup mieux, t'encaisses les tergiversations. Tu dis, il nous fait chier, mais s'il vient, on sera quand même content. Sauf que la tentative de Zerbi, moi, j'ai l'impression que les dirigeants marseillais l'ont un peu tenté comme ça. Parce que la vérité, c'est que de Zerbi, mine de rien, et c'est ça qui est surprenant, il avait pas de grosses propositions. Il avait quasiment que dalle même. Pour tout dire, à partir du moment où Ten Hag restait à Manchester United, en fait, il y avait plus grand chose.
On me dit qu'il était pas chaud d'aller à United, moi.
Peu importe, de toute façon, ouais. Peu importe, puisque ça ne s'est pas présenté au final.
Ah bah attends, Julien Laurence nous rejoint, lui qui suit le foot anglais évidemment toute l'année. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
T'as entendu là ce que Julien disait Daniel sur les... Est-ce que De Zerbi pour toi avait des opportunités par ailleurs en Angleterre ou rien?
Oui, il a été. Non, si, il a été en tête de liste. Il a été par exemple pour Liverpool, pour le job de Liverpool qu'il a finalement pas eu et que Arne Slot a eu. Il a eu à Manchester United.
Oui, mais tout ça, c'est... il était sur les listes avant. Moi, on parle de cette semaine. Les listes, elles étaient.
Là où il aurait pu aller vraiment.
Non, mais ouais, il aurait fermé. Il était sur la liste, mais sauf que cette semaine, il n'y avait plus de liste. Puisque Manchester a bouclé Ten Hag, Liverpool, ils ont pris un coach. En fait, tu sais, c'est comme t'es sur la liste, mais si t'es pas pris, ça te fait une belle jambe d'être sur la liste.
Et là, il n'y avait plus rien.
Cette semaine, il n'y avait plus rien.
Après, ouais. La question, c'est est-ce que à Manchester United, c'était de sa volonté ou c'était la volonté de Manchester United? Moi, j'ai des infos qui se contredisent là-dessus. Bon après, de toute façon, on va pas s'éterniser là-dessus.
Très honnêtement, est-ce que c'est vraiment important?
Oui, voilà, exactement.
C'est pas le plus important. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que les dirigeants marseillais, voyant que l'autre hésitait, machin, ils ont dit, tiens, puisque De Zerbi finalement n'est nulle part, si on tentait l'affaire, et de façon très étonnante, enfin, je dis parce que les dirigeants marseillais ont été surpris. Entendre De Zerbi dire, d'abord, pourquoi pas. Et ensuite discuter et s'entendre dire que De Zerbi avait kiffé l'ambiance à l'OM, que c'est un club qui lui parlait. Oui, voilà. Que c'est un club qui lui parlait, que le projet pouvait l'intéresser. Là, les dirigeants marseillais sont regardés, ils se font oh, pour de vrai, il est en train de.
Parce qu'au début, Gilbert, c'était irréalisable dans leur tête de prendre De Zerbi. On parle quand même si on va pas revenir sur les listes, mais on parle quand même d'un entraîneur qui a une grosse hype en première ligue notamment, et un club pour l'Olympique de Marseille, comme l'Olympique de Marseille, qui vient de terminer 8 ou 9e de Ligue 1, c'était irréalisable. Et comme vient de le dire Daniel, le fait d'ouvrir la porte, et derrière, en plus, dans les discussions, d'avoir des discussions très positives, et que lui, de sa part et de son propre chef, même sur l'aspect financier. Moi, j'avais entendu qu'à Brighton, il demandait une prolongation mirobolante. Le fait de faire des efforts, le fait de vraiment montrer son envie de venir à l'Olympique de Marseille, ça s'est accéléré. Mais au départ, c'était un rêve pour les dirigeants marseillais.
Les Marseillais, ils sont allés. En plus, là, ils étaient dans une période un peu Jean-Claude Duss, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayaient de conclure et il n'y avait rien du tout.
Contre Sao, ils étaient beaucoup.
Et ils ont pris la plus belle fille de la soirée.
Et ils ont terminé. Non, ils terminent un peu comme à la fin quand il veut repartir, mais finalement il reste une semaine de plus parce qu'il y a la petite à lunettes qui arrive. Moi? Ouais, toi? Ah bah
Julien.
C'est bon, alors oui, on y va.
Julien, on est d'accord qu'il fait partie de la liste de ceux qui ont refusé le Bayern?
Toi, honnêtement, j'y crois
ouais.
pas.
Ah ouais, ouais, c'est ces choses-là. Ouais, je sais pas si c'est lui qui a refusé ou si c'est au final le Bayern qui. Ouais. Parce qu'il y a des signaux un petit peu contraires, dans le sens, tactiquement, sur le terrain, c'est sincèrement du très, 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 très haut niveau. Et ça, si t'es supporter marseillais, rien que pour ça déjà, tu dois être aux anges, parce que ça, c'est sûr que le football qu'il va proposer, même si c'est des joueurs moins bons qu'il a pu avoir avant, ou même si c'est des joueurs qui sont peut-être pas.
Tu sais, vu ce qu'il a fait à Sassuolo et même à Brighton, oui. T'avais pas que des cracks. Hein.
Ouais. Oui, peut-être, mais bon, t'avais quand même des joueurs qui. Ouais, tu vois. Mais bon, bref, quoi qu'il arrive, si t'es supporter marseillais, rien que ça, déjà, tu sais que tu vas kiffer. Après, en revanche. Et peut-être que finalement, c'est ça qui va bien lui convenir et ça va marcher parce que Marseille, ça peut être un club qui est un petit peu chaotique aussi. Et lui, c'est un entraîneur qui est un peu comme ça.
Exactement. Ça, on le sait pas assez, mais il est quand même assez foufou, lui, hein.
Mais oui. Il y a des fois où, moi, on me racontait que 5 minutes avant le début de l'entraînement, finalement, ils changent l'heure de l'entraînement et puis c'est 2 heures plus tard. Donc tout le monde est là, tout le monde est prêt, ils sont sur le terrain, mais en fait non. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça qu'il fait. C'est pas, lui est pas trop structuré personnellement. Son football est très très structuré, très dogmatique. Lui, pas du tout. Et donc il y a des clubs où ça peut un petit peu créer de la tension. On l'a vu à Brighton par exemple. Et peut-être qu'à l'OM finalement, il y aura pas cette tension là. Je sais pas. Au final, ça a fatigué un petit peu à Brighton aussi. Et ce qui lui l'a fatigué, c'est qu'à un moment à Brighton, quoi qu'il arrive, le modèle du club, c'était que chaque été, tes 2 meilleurs joueurs partaient. Caicedo, McAllister. Là, ça allait peut-être être un Ferguson, un Estupinan, ce genre de joueurs-là, Pascal Gross peut-être, qui sont très importants pour lui.
Il y avait eu Cucurella un peu avant.
Ouais, un petit peu, voilà. Mais moi, ce qui me surprend un tout petit peu, je sais pas ce qu'on lui a promis, mais bon, c'est qu'à un moment, il aura peut-être pas l'investissement qu'il aurait pu avoir dans un autre club, certainement, pour avoir des joueurs qui lui conviennent aussi. Et deuxièmement, c'est si l'été prochain, Marseille doit vendre encore ses 2 meilleurs joueurs, comme Brighton l'a fait, il sera pas content encore. Ça a été ça le problème à Brighton. C'est pour ça qu'il n'est pas resté finalement.
On va dire qu'il était, sa carrière, quand il se révèle à Sassuolo, c'est donc petit club. Derrière, il y a la première ligue dans un petit club de première ligue.
Il passe au Shakhtar entre temps.
Oui, il passe au Shakhtar.
À cause de la guerre.
Hein. Logiquement, c'est un gars qui devait être sur une phase ascendante, à terminer, d'après ce qu'il disait, dans des clubs plus huppés de première ligue. Aller à l'OM. Quand t'es en première ligue, de toute façon, revenir en Ligue 1, que ce soit à l'OM ou ailleurs, de toute façon, c'est un pas en arrière. S'il le fait, c'est qu'il y a quelque chose qui l'emballe dans le projet. On lui a dit, écoute, nous, il faut qu'on aille en Ligue des Champions. On va te filer un contrat de 3 ans. Donc, cette année, on n'y est pas. Les 2 prochaines années, il faut qu'on y soit. On veut du spectacle. Le stade, il est tout le temps plein, ça va être le feu. Toi, t'as un tempérament qui peut être un peu bouillant. Ça va plus te correspondre finalement dans le caractère que l'Angleterre. Ça, c'est certain. Brighton, en plus, c'est une ville très calme, bord de mer, un peu chicose.
Il a toujours pas eu de club avec un gros engouement.
Exactement. Donc là, il se retrouve avec gros engouement. Il peut péter des câbles. Ça peut être compliqué, attention, dans un instant on parlera aussi de son jeu, des défauts que ça peut avoir et des grandes qualités que ça peut avoir. Ça peut emballer tout le monde, ça peut avoir des coups de mou, il peut se passer, en tout cas il va se passer plein de choses. Et avant qu'on rentre dans le détail, je fais ma première conclusion, c'est hyper excitant pour Marseille, c'est hyper excitant pour l'OM et je n'ai rien compris aux avis que j'ai entendus dans l'émission de Jérôme tout à l'heure, où les mecs m'ont semblé mais complètement à côté de la plaque. Quand on sait dans quelle situation est la Ligue 1 aujourd'hui, on n'a pas de diffuseur, il n'y a plus de thunes, les gens se demandent comment ils vont regarder les matchs, et chez Jérôme tout à l'heure, t'avais un Carteron de vieux gars aigris,
un Patrice Carteron,
en train de te dire ouais on n'est pas sûr machin, des lageoires à bajoie là. Mais franchement,
ça va débuter. Pour la Ligue 1, c'est génial. Pour la Ligue 1, c'est génial qu'il arrive.
Non, mais c'est une formidable.
Pour la Ligue 1, c'est génial.
C'est une formidable.
Bien sûr, mais va dire ça dans l'émission de Jérôme. T'avais 4 lageoires à bajoie.
Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. Sincèrement, s'il y a 6 semaines, ou encore même il y a 2 jours, on nous avait dit que 2 Herbie arrivaient à l'Olympique de Marseille, mais je pense que personne ne mettait une pièce.
Moi, je veux bien débattre pendant 1 an avec Walid, parce que 2 Herbie, il rentre dans la catégorie des génies que Walid arrive. Adore. Donc, moi, comme je suis. Moi, comme j'adore à la base, ce genre de mec, mais qu'après je suis aussi capable de voir quand ça va moins bien. Ouais. Je veux t'assurer, au moins on va en parler. Non, mais c'est génial pour l'OM, mais pour la Ligue 1.
Et puis surtout, je répète, on va pas refaire le débat tout à l'heure, s'il avait des sollicitations ou pas, mais si 2 Herbie va à Liverpool, on dit c'est un super choix. S'il va au Barça cette année, on dit c'est un super choix. S'il va à la Juve, s'il va à l'AC Milan,
s'il va à Chelsea,
s'il va à Chelsea, je me rappelle, il y a 3 semaines, on faisait un débat avec Jennifer dans Génération After. Après Pochettino, on disait le favori, c'est pas Maresca qui vient d'arriver de Leicester, c'est Roberto 2 Herbie pour Chelsea. Et aujourd'hui, il vient à l'OM où il y a encore un mois et demi, il y avait Jean-Louis Gasset, il était 9e de Ligue 1. On savait pas si c'était Conceição ou pas Conceição. Ah, ils vont se retrouver Fanny.
D'abord, Fonseca qui a fait la finale, qui a dit je veux pas y aller. Fonseca. Parce qu'il y a Milan, donc je vais attendre.
Et là, aujourd'hui, il va à l'Olympique de Marseille. Attends. Déjà en 2022, Longoria le voulait. Il a pas réussi à l'avoir, mais c'est extraordinaire. Et même au-delà de Marseille, pour la Ligue 1. Alors, ça veut pas dire que ça va réussir d'entrée ou on va voir. Mais le choix. Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille et sans Coupe d'Europe. On avait dit, mais vous vous rappelez des débats sur Fonseca? Non, mais Fonseca, il viendra jamais à l'OM sans Coupe d'Europe. Il ira au Milan ou il restera à Lille.
Et lui,
tu vois Roberto 2 Herbie.
Lui, il vient pour jouer la Ligue 1 et la Coupe de France.
Je répète, cette année, c'était un peu plus compliqué à Brighton. Mais l'année dernière, c'était l'un des jeux les plus agréables à regarder en Europe. Il avait terminé 6e de Première Ligue avec Estupiñán, Enciso et Jesse March. Hein. C'est pour vous dire. Donc, l'avoir à l'Olympique de Marseille, c'est dingue, c'est complètement dingue.
Walid, comment tu vas faire quand tu auras PSGOM là, entre les deux boutiques Jiffy?
Ah bah je vais moi je vais me régaler moi. C'est toi qui vas avoir du boulot.
Mais en plus, aussi tu sais, Julien, Longoria va devoir changer hein, parce qu'avec lui, ouais, tu fais pas 12 départs et 12 arrivées à chaque marché des transferts.
Maintenant qu'on a partagé cet enthousiasme, on va rentrer dans les détails. Donc Julien, toi tu as suivi très près Brighton cette année, tu vas nous dire exactement comment il joue, les principes, sa stratégie et tout. Et puis on aura Morgan au 32-16, supporter marseillais qui veut réagir. À tout de suite dans l'after.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h17, Pauline Cherchour, Daniel Riolo et Julien Laurence sont là. Deux heures au programme, il arrive à Marseille. Et évidemment, on veut rentrer dans les détails. Julien, raconte-nous un peu sa méthode, ce qu'il aime faire, ce que les Marseillais vont voir.
Alors, c'est un 4-2-3-1, des plus basiques, on va dire.
C'est pas un schéma qui est vraiment à la mode, hein, Julien.
Non, attends.
Le 4-2-3-1, on voit plus beaucoup.
Le 4-2-3-1, tu trouves ?
Ah, qui joue comme ça ?
Ouais,
Arsenal, peut-être. Ouais, voilà. Peut-être Arsenal.
Non, et encore, c'est 4-3-3.
Mais comme Julien,
oui, regarde Arsenal. Je veux dire, pas forcément très populaire, mais ouais. Tu vois, de base, il n'y a rien
plus tellement à la mode, cas, alors que c'est un de mes préférés. Après,
le Bayern aussi joue comme ça.
Ouais, c'est vrai. Après, avec beaucoup de fluidité, en phase offensive notamment, avec deux joueurs de côté, un qui va rester très près le long de la ligne, un autre qui va plutôt rentrer à l'intérieur. Cette fameuse boîte que Deserbi a vraiment rendu celle-là beaucoup plus populaire et beaucoup plus commune, où tes deux défenseurs centraux, pardon, et tes deux milieux de terrain défensifs, donc tes deux des quatre défenseurs et tes deux des deux du 4-2-3-1, crée cette petite boîte pour attirer l'adversaire qui va donc venir presser, venir jouer long en pensant qu'il pourrait récupérer le ballon, et d'un seul coup ça va à 2000 à l'heure vers l'avant. Et c'est là aussi où il va falloir les joueurs qui vont lui aller. Moi, je sais pas si Rongier, Veretout, ça peut jouer là, par exemple. Je sais pas si les défenseurs centraux, Mbemba, Gigot, ça peut jouer ce football-là. Ça, je sais pas.
Rongier, Veretout correspondent pour un aspect, c'est qu'ils ne rechignent pas aux efforts et que ce sont deux joueurs intelligents et qui feront tout pour comprendre ce qu'ils veulent, au minimum. S'ils ne peuvent pas, c'est encore autre chose. C'est des gens qui sont malléables, qui sont capables de jouer avec à peu près tous les entraîneurs.
Est-ce que tu pensais que Lewis Deng pouvait faire ça?
Non, c'est vrai. C'était mon point qui suivait. Ouais. Tout à fait raison. Bon, allez. Il va faire progresser ses joueurs marseillais, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est sûr, ils vont progresser individuellement. Il va leur montrer du football d'un autre œil, comme ils n'ont jamais pu voir avant, même pas avec Sampaoli. Encore moins avec Jean-Louis Gasset. C'est sûr et certain.
C'est des styles peut-être différents, mais mine de rien, cette année, il y a eu le crash. Et Longoria, en allant chercher Marcelino, dans son esprit, c'était réfléchi et ça devait être une bonne idée. Ça n'a pas marché. Néanmoins, depuis que Pablo Longoria est à l'OM, quand même, on aura toujours eu un OM avec de la personnalité. Sampaoli, c'était une personnalité. Tudor, c'était une personnalité. Et là, De Zerbi, on va avoir une personnalité.
Et globalement,
je
pense que c'est le plus gros fait d'armes de Longoria depuis qu'il est arrivé, c'est sur la qualité des coachs. Hormis Marcelino, il y a quand même, et au-delà de Longoria, hein, il y a une attractivité quand même à l'OM. Coaché à l'OM, j'ai quand même l'impression que c'est coaché à l'OM. Hein. T'as eu sur la dernière décennie Deschamps, Bielsa qui est arrivé, Villas-Boas.
Il y a eu du monde sur le banc.
Tu sens que venir à l'Olympique de Marseille, parce que cette année, ils font une année catastrophique en Ligue 1, mais peut-être que la demi-finale d'Europa League, parce que ça a procuré dans le stade, etc.
En tout cas, De Zerbi, il a aimé.
Gasperini l'avait dit aussi quand il avait joué avec l'Atalanta. On sent que ces mecs-là, c'est un vrai challenge de venir à l'Olympique de Marseille. Et Longoria et Benatia réussissent quand même à pouvoir concerner, persuader ce type de coach qui sont pour moi beaucoup plus dimensionnés que l'Olympique de Marseille à l'instant T.
On a Morgane au 32-16, supporter marseillais. Morgane, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
T'es enthousiaste à l'idée de voir arriver De Zerbi dans ton club ?
Oui, alors plusieurs choses à vous dire déjà. Ça fait plaisir de vous entendre parce que souvent je passe avec Jérôme aussi. Et j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris comment il peut autant le tailler que ça, surtout dans la situation.
Ah oui, pour ceux qui ont raté ça, Jérôme Rantaine disait tout à l'heure que selon lui, Conceição avait plus de références que De Zerbi.
Alors là où il a pas tort. Attention. Alors dans ce cas-là,
il dit ouais, il y a une hype sur ce gars. Alors qu'à Brighton, ça s'est fini en cata. Dit.
C'est ça qui est fou. Et après, il a donné aussi.
Terminé dixième avec le. Non. Tant de blessures, c'est pas cata.
Brighton, à la base, il a donné aussi un argumentaire qui est fou en disant si ça avait été quelqu'un qui a gagné des titres au Bayern, à Manchester, à ce moment-là, oui, mais ce mec-là, il vient pas chez nous.
Ça serait pas venu à l'OM. Donc,
exactement.
Pour être tout à fait précis, Morgane, si tu permets. Moi, ce sont deux entraîneurs différents avec des styles différents, mais Conceição, je l'ai dit il y a plusieurs mois, il avait également une personnalité dans un autre style qui correspondait parfaitement à l'OM. Oui. Lui aussi est très exigeant, lui aussi fait progresser les joueurs et les équipes, et ça aurait été une magnifique nouvelle. Oui. Et là, là-dessus, je peux rejoindre Jérôme, ça aurait été également un très beau coup.
Et il avait un plus gros CV, il a raison.
Et même ce que je veux rajouter, Daniel, c'est que je pense que le point positif de Conte Sao, si on prend par rapport à De Zerbi, je trouve que il a quand même vécu 7 ans à Porto avec un club qui joue la Ligue des Champions régulièrement, un public très exigeant. Donc il a vécu ça beaucoup plus qu'un De Zerbi qui a entraîné des clubs certes corrects, mais qui a, où il n'y a pas de pression populaire et cette Ligue des
Champions
chaque
année. Comme disait Wally tout à l'heure, c'est sa première expérience avec un engouement très fort, avec une grosse attente.
C'est ça. Donc moi, c'est le point positif que je donnais à
Conte Sao. Le seul point commun entre Marseille et Brighton, c'est la mer.
Ouais, après,
le plus belle que l'autre quand même. Hein.
pour moi, après là où Longoria fait fort, c'est que bon, je suis pas du tout un insider, pas du tout, mais j'avais aussi l'info que tu as donné, Daniel, et je l'ai mis sur Twitter d'ailleurs comme au goal. Je me fais un peu de pub, désolé. Le public de l'OM peut se dire qu'on a participé modestement à la venue de Zerbi, parce que apparemment après le match, alors il en a parlé en conférence de presse avant le match, mais après le match apparemment, quand il a vécu le match au Vélodrome, il a été piqué très fort par le public et l'ambiance du Vélodrome. C'est quelque chose qui l'a marqué énormément, et ça contribue un petit peu aussi aujourd'hui à ce que l'OM arrive à attirer des entraîneurs comme ça. Bien sûr, ça doit être 3% de la décision, mais mine de rien, ça, il y a des coachs qui veulent venir beaucoup pour ça. Et là où Pablo frappe fort, c'est que si tout va bien, ça devrait être peut-être officiel. Enfin, ça devrait se faire demain ou après-demain, et on est en pleine période d'abonnement. Je peux vous assurer que si c'est officiel dans les jours qui viennent, les abonnements, ils vont exploser, parce que peu importe ce qui va se passer, tout le monde sait qu'on va se régaler au stade. Peu importe la saison que tu vas faire, tout le monde sait qu'on va aller au stade et on va voir du jeu, on va voir des mecs qui vont aller vers l'avant, on va avoir un pressing très intense, on va avoir presque du 1 contre 1 derrière. Et rien que ça, il fait fort.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il faut rappeler qu'après Sampaoli, il voulait De Zerbi et finalement ça s'est pas fait. Et c'est avec la déception de la non-arrivée de De Zerbi que Tudor a pris autant cher. De cet été-là, parce qu'il y avait un fantasme autour de De Zerbi. Et c'est intéressant que tu parles des supporters, parce que il va falloir, de la part de l'équipe dirigeante, donc le duo Benatia-Pablo Longoria, de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est-à-dire que si tu as De Zerbi dans ton club, il va falloir vraiment être patient, lui donner du temps, lui donner aussi des moyens pour qu'il fasse progresser cette équipe et qu'il aille chercher des gros résultats. Mais la même chose pour les supporters. C'est-à-dire que moi, j'en parlais à la pub avec Gilbert, pour avoir suivi quand même pas mal de matchs à Sassuolo, avoir parlé beaucoup de fois avec Maxime Lopez, qui adore totalement Roberto De Zerbi, il lui faut quand même un minimum de temps. Et c'est un jeu qui va être clivant. Je pense qu'on va avoir beaucoup de débats l'année prochaine, parce qu'il y en a qui aimeront, il y en a qui n'aimeront pas. Mais si au bout de trois matchs au Vélodrome, les gens ne comprennent pas, ou ne comprennent pas si demain il fait jouer Rongier à un poste différent, ou Mbemba, je cite n'importe quel joueur. Ça aussi, c'est important. Quand tu es un club, les supporters, je dis pas qu'il faut être des bénis, oui. Si ça perd, il faut rien dire. Il faut aussi être dans l'exigence, mais qu'elle ne dépasse pas les limites, comme ça a été le cas sur les dernières années. Il faut vraiment. Je pense qu'il faut retrouver du calme aussi sur ça. Quand t'as un entraîneur comme ça,
là-dessus, néanmoins, et c'est là la limite.
Et je parle du club aussi. Hein.
La limite, c'est que les belles idées, c'est fantastique. Je ne vais pas répéter à quel point je suis heureux de le voir débarquer. Maintenant. Quand Peter Boss arrive à Lyon, c'est une extraordinaire nouvelle. C'est un super coach, Peter Boss. Ça n'a pas collé. Parce que ça n'a pas collé avec la mentalité du club et avec la mentalité de ce qu'on appelle les joueurs français, leur volonté parfois de travail. Un aspect, on va dire, qui est mis en avant par beaucoup d'entraîneurs quand ils passent en Ligue 1, où ils se disent il y a des choses qui sont très difficiles à demander à des gens qui sont habitués à la Ligue 1 par rapport à ce qu'on peut avoir comme rendu à l'étranger. Il va y avoir cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est son jeu. Ça existe aussi, la transition rapide en Première Ligue, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de blocs très bas Et un peu ce qu'on a vu à un moment, à l'époque Bielsa, où il y avait cette frustration de jouer magnifiquement bien et de te prendre un vieux contre moisi de merde à la 85e qui te plombe. Et ça se termine par « Ah, domicile, t'es moins bon que quand tu joues
avec ça. » Il y a eu le même problème avec Sampaoli, Daniel.
Voilà, exactement.
Sampaoli, on te disait « Oui, c'est du handball. »
Mais d'accord, Morgane, mais moi, à l'époque, je me souviens même de Tudor. Moi, les critiques qu'il y a eu sur Tudor dès le mois de février, parce que entre les joueurs qu'on avait qui sont un peu arrivés au bout du rouleau de l'exigence, pareil avec Sampaoli, les fins de saison qui ont été éreintantes, et donc il y a eu un peu moins de rendu de la part des joueurs. Moi, je me souviens que je défendais ces deux coachs-là et que les critiques, elles devenaient de plus en plus virulentes.
Ce qui est intéressant, oui, Daniel, moi, je dis après, que malgré tout, au-delà,
on est tous amoureux d'un style, moi j'aime beaucoup, mais il faudra quand même voir ce que ça donne.
Bien évidemment.
Il faudra voir. Mais les joueurs doivent adhérer.
Oui, mais aujourd'hui, quand t'es
club. J'aimerais que Morgane finisse une phrase.
Non, mais quand t'es club, tu dois donner du temps à ce coach-là et je pense qu'ils vont.
Tant bien.
Je pense qu'ils vont le faire.
Bien sûr.
Parce que Marcelino, ça
Walid. Morgane et ensuite Julien. Vas-y, Morgane.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Walid, et ce que vous dites, Walid et Daniel, déjà, juste parenthèse sur Tudor, c'est un excellent coach. Là, le problème de Tudor, qu'il ait raison ou pas raison, c'est qu'il n'a pas ce côté humain qu'il faut un minimum avoir pour ne pas perdre un groupe. C'est ce qui l'a tué.
Ça peut être compliqué aussi, il faut faire attention.
Ouais, mais tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai perdu le prénom, excusez-moi, votre spécialiste du football anglais disait que de temps en temps, il reçoit des joueurs chez lui, Tudor, pas du tout. Tudor, c'était un militaire. Et j'ai même un journaliste de Maritima qui l'avait eu en face à face et qui lui avait dit, on n'a jamais aussi bien vu l'OM jouer depuis des années. Mais il faut que vous ayez ce petit côté-là quand même envers les joueurs humains. Et il a répondu, moi, je suis un croate. La mentalité, c'est comme ça. Ça changera pas. Il vient de perdre la radio aussi à cause de ça. Parce que je pense que, il arrive, il se met Guendouzi à dos. Il se met deux, trois joueurs du vestiaire à dos. Et malheureusement, c'est un super coach. Mais, sans dire qu'il a raison ou tort, avec la mentalité des joueurs aujourd'hui, tu es obligé d'avoir ce petit côté humain. Et pour en revenir à De Zerbi, là où... alors. Pareil, à mon modeste niveau, j'ai réussi à savoir quelques trucs. Apparemment, justement, ce qui fait qu'il vient chez nous, c'est qu'il sait qu'il va avoir les mains libres pour construire, ce qu'il n'aurait pas forcément eu à Manchester, parce qu'il a vraiment négocié avec eux, que Ineos voulait absolument avoir la main sur le mercato, parce qu'ils viennent de racheter le club et ils vont pas confier ça à De Zerbi, et que De Zerbi, lui, pour pouvoir mettre son style de jeu en place, il a besoin de joueurs qu'il veut et de temps. Et c'est apparemment ce que Longoria va lui laisser, puisque, justement, Longoria a compris qu'il fallait une certaine stabilité au club comme ça. Et pour revenir aussi sur si ça se passe mal au début, je pense que le public et même les groupes de supporters au stade sont piqués par ce qui s'est passé avec Tudor, parce que tout le monde regrette de l'avoir traité comme ça, avec ce qui s'est passé derrière, on est tous passés pour des cons, et que avant de recommencer à siffler un mec au bout de 3-4 journées, il va en falloir, je pense. Et notamment cette année, même si on se régalait pas avec Marcelinho, c'était pas le premier visé, c'était plus le choix de l'entraîneur qui était pas bon, etc.
Bah après, Il y a un signe qui est plutôt positif, c'est que immédiatement Domenech a dit que c'était une mauvaise idée. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour l'OM.
C'est plutôt bien. Ouais. Julien, non, juste sur les débuts.
Oui, et puis dis-nous quels peuvent être les problèmes, parce que c'est aussi t'as vu des limites à Brighton quand même.
Il a pas encore parlé des qualités encore.
Non, pour les débuts surtout. À Brighton, il arrive au mois d'octobre. Aucune victoire sur les 5 premiers matchs du championnat. D'accord. Donc pour revenir sur ce que Walid disait à juste titre d'ailleurs, ça met un petit peu de temps. Alors ce sera différent. Il aura toute une avant-saison. Ils se prépareront. Ils auront des matchs amicaux. Donc c'est un peu différent. Mais c'est juste pour vous remettre dans le contexte. Quand il est arrivé à Brighton, aucune victoire sur les 5 premiers matchs. Après, ils en mettent 4 contre Chelsea. Ils vont en mettre 3 contre Liverpool. Ils gagnent 2 fois à Arsenal en mettant 3 buts. Donc après, la machine était lancée.
Mais il fait un 3-3 d'entrée contre Liverpool, non, Julien?
Oui, il fait 3-3. Mais il n'y a pas de victoire sur les 5 premiers matchs. Parce qu'après, ils perdent à domicile contre Tottenham. Ils perdent 2-0 à Brentford. Donc après, c'est vrai que les débuts ont été compliqués malgré le 3-3.
Non, mais t'as raison.
Mais après, une fois que la machine était lancée, c'était très bien. Les faiblesses, entre guillemets, ou les défauts de cette équipe, c'est qu'elle est forcément très, très offensive. Elle se découvre beaucoup. Cette saison, on a vu, ils ont pris beaucoup de buts. Ils ont perdu 4-0 à Luton, qui est quand même une équipe plus que très moyenne.
Il y a des mauvaises langues dans le milieu qui disent qu'en Ligue 1, ça peut être compliqué, qu'il peut finir avec 70 buts dans la musette sur la saison.
Ça, je sais pas. Non, mais c'est vrai que son équipe parfois peut être un peu déséquilibrée et trop portée vers l'avant. Mais voilà, ça fait partie de la philosophie.
Après cette année, il a pas eu Mitoma qui était un joueur très important et Stupinian qui était un joueur très important.
Jesse March,
Solimarch, qui était très très bon sur la deuxième partie de saison de la première.
C'est sûr, Ferguson aussi. Toutes les stars à un moment ont été blessées, tous ces joueurs importants.
C'est ça. Et moi, le seul doute.
Enciso, il a joué avec Fernando Cudo, non ?
Ouais, c'est ça. Le seul doute, moi, comme disait tout à l'heure Daniel, c'est le fait que, contrairement à Sassuolo et à Brighton, je sais pas si les équipes adverses vont énormément le presser. Parce que sa grosse force, c'était de se sortir du pressing des grosses équipes. Et en Ligue 1, on l'a vu avec Farioli notamment. Farioli qui est un disciple de Zerbi, et son jeu a été très clivant cette année. C'est qu'à partir du moment où tu vas pas presser ses équipes, est-ce que tu vas pas être dans un football un peu d'attente, de position défensive, qui va un peu emmerder tout le monde? C'est ça, moi, ça va être ça ma question.
Ça sera le vrai premier débat, parce que ça a été un
football spectaculaire, parce que à chaque fois qu'il jouait notamment.
Parce que c'est quand c'est pressing contre pressing.
Exactement.
Voilà, il attire
le bloc adverse pour derrière créer le décalage sur les 25-30 premiers mètres.
Les entraîneurs qui vont bosser et qui vont pas se jeter comme des crétins sur lui, parce que cette année, mine de rien, en Ligue 1, alors qu'on est dans une période un peu sombre, Francaise à Nice, Luis Enrique au PSG ou Will Steele à Lens. On a quelques coachs qui sont quand même.
Avant du niveau. Ouais.
Périnelle à
Monaco. Avant du niveau.
Périnelle. Merci Julien, on se retrouve dans une demi-heure.
Merci les gars.
On a du lourd, donc ça peut être très intéressant.
Ouais. Dans un instant, l'Euro 84, Maxime Bossis avec nous. On viendra tout à l'heure sur l'Euro de 2024 dans quelques instants. Et puis, une petite info mercato PSG. Une petite info PSG intéressante juste après 23h également concernant une recrue, une priorité de Lucien Riquet. On vous donne ça dans moins d'une demi-heure. A tout de suite.
Quelle équipe remportera le match? Quel sera le score final? Qui marquera un but? Télécharge l'application Unibet et parie sur les plus grands matchs européens. En ce moment, profite d'un bonus exceptionnel de 100€ pour toute nouvelle inscription. Unibet, par les joueurs, pour les joueurs. Bonus versé en crédit de jeu non retirable en cas de premier pari perdant. Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h35, Daniel Riolo est là, Walid Acherchour est là et nous accueillons un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas connu Maxime Bossis, eh bien vous avez tort. Allez sur...
En même temps, s'ils ne l'ont pas connu, ils peuvent rien.
Se rattraper.
C'est mon cas.
Il y a du rattrapage possible, on peut voir les archives, on peut aller sur YouTube.
Max n'en voudra pas de que je lui prenne une minute.
On va d'abord l'accueillir.
On a oublié sur deux Dezermi, question essentielle quand même, c'est est-ce que mon Bagna est compatible?
Ah, on verra.
T'aimes trop ça. T'aimes trop ça, tu penses qu'à lui.
Maxime Bossis est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être bonsoir, là.
Salut Maxime.
Merci. Le plaisir est réciproque d'être avec vous.
Bah voilà. Donc, en plus, la façon dont je vous ai présenté, je pense que ça correspond tout à fait à la réalité.
c'est un peu trop élogieux pour moi, mais bon. C'est vrai que toutes les générations ne connaissent pas les anciens, grands ou petits.
Exactement. Je rappelle que Maxime Bossis a été en son temps recordman de sélection en équipe de France.
Oui.
Titulaire indiscutable en défense pendant quoi? Près de 10 ans hein,
latéral,
en équipe de France.
C'est ça, oui.
Exactement. Le bouquin, c'est le Grand Max.
Parce que c'est un peu son surnom.
Édition Nouvelle Source.
Les commentateurs l'appelaient comme ça, que ce soit Thierry Roland ou Drucker pendant la Coupe du Monde 86. C'est un peu son surnom.
Alors, on a choisi, Maxime, si vous le voulez bien, nous de nous concentrer avec vous ce soir sur l'Euro 84, parce que demain, il y a l'Euro 2024 qui démarre, donc on ne va pas vous rebassiner ce soir avec Séville ou d'autres événements.
Mais Séville, il s'en souvient plus.
on m'en parle toutes les semaines de Séville. Là,
mais vraiment, Max, c'est un truc, quand on dit toutes les semaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu sors te balader, quand tu croises des gens, c'est quoi en fait, quand on dit ça?
Ouais, quand je croise des gens et qu'on rencontre des supporters de l'équipe de France de la génération 80, qu'ils aient 10 ans ou 30 ans à l'époque, eh bien au bout de 30 secondes, donc ils nous abordent gentiment et ils nous parlent du France-Allemagne, de Séville, et évidemment jusqu'au bout, forcément les tirs au but malheureusement pour moi. <quoi.
rire> Bon, nous on n'en parlera pas.
Quand même curieux, Max, parce que le dessin... Mais non, mais alors, tu vois... Pardon,
ah non, tu vas pas en parler.
Si, parce que j'ai pensé à un truc.
Tu vas avoir une seule question.
D'abord parce que Max m'a confié qu'il a plus jamais tiré de pénalty après ça. D'ailleurs, j'en avais parlé dans le spectacle. dans le spectacle L'After remonte le temps. Et ensuite, parce que c'est marrant, parce que moi je suis fasciné par les tirs au but, parce que ça peut changer la vie d'un homme, ça peut le marquer en bien ou en pas bien. Et finalement, alors que c'est toi qui rates le dernier, les gens t'aimaient tellement. Oui. Et en même temps, bah, sur le terrain, tu dégageais quelque chose qui faisait qu'on était toujours derrière toi parce que tu avais une générosité. On ne t'en a pas voulu de ça, alors que ça aurait pu être terrible. On a tellement d'exemples. Et ça m'a fait penser à l'histoire de Didier Six. Tu sais, quand on avait fait notre match à Marrakech,
oui,
où lui a été marqué à vie, alors que lui, il le rate avant toi, que c'était récupérable. Eh bien, lui, ça l'a marqué négativement dans sa vie, alors que toi, bah, on vient de taper sur l'épaule, on te dit « Ah, on t'en parle, mais... » De façon peut-être moins tragique. C'est marrant parfois les destins.
Oui, c'est sûr que je pense que Didier a encore un plus mauvais souvenir que moi du tir au but raté à Séville. Les réactions ont été un peu plus mitigées peut-être pour lui, sans savoir exactement pourquoi. Est-ce que c'est un problème de personnalité ou autre? Mais c'est sûr que ça peut marquer un homme à vie. Moi, ça m'a pas marqué sur le terrain. J'ai continué ma carrière, bien que je n'ai plus jamais tiré de pénalty. Mais je sais, pour en avoir parlé avec lui, avec Didier, que lui, ça l'a marqué vraiment très très profondément.
Ouais. Pour l'anecdote, on a joué un jour un match de médias français contre médias marocains à Marrakech. Didier Six était avec nous, ça s'est terminé au tir au but. Et ben, il n'a pas voulu tirer. Alors qu'il n'y avait que nous là sur le terrain.
Même un tir au but pour rien, non, du tout.
J'aurais fait la même chose.
Tu te rends compte un peu comment ça peut.
Alors, l'Euro 84, c'est intéressant parce que c'est peut-être la compétition. Il y a eu 2000, il y a eu 98. Bon, c'est peut-être la compétition que la France a finalement le plus dominée. De la tête et des épaules quand on reprend les matchs. Il n'y a pas eu que les matchs faciles, hein, bien sûr. Enfin, sur la globalité, s'entend, Maxime. Est-ce que vous vous sentiez en 84 largement au-dessus? Vous marchiez sur l'eau, vraiment?
On se sentait pas vraiment au-dessus de tout le monde, mais c'est la première compétition qu'on abordait en étant favori. Il y avait évidemment les demi-finales, la Coupe du Monde 82. Malgré la défaite, on avait montré qu'on était capable de rivaliser avec les meilleurs. Et là, c'était une compétition en France. On était arrivé avec les joueurs cadres entre 27, 29 ans, 31 ans pour Alain Giresse. Et c'est vrai qu'on se sentait capable de gagner cette compétition. Mais il y avait énormément de pression. On s'est senti au-dessus quand on a battu la Belgique 5-0 à la Beaujoire. Mais lors du premier match contre le Danemark, gagné péniblement 1-0, on était quand même dans nos petits souliers.
Et tu sais, c'est marrant parce que ce match contre la Belgique, souvent on dit ah, ils ont collé 5-0 à la Belgique. Mais la Belgique du début des années 80, c'est une sacrée équipe. Hein. D'abord qui fera demi-finale à la Coupe du Monde d'après, et qui en phase de groupe dans la qualif pour le Mondial 82 finit devant la France. Le football belge du début des années 80, c'est un football qui a plus de coupes d'Europe que nous, puisque nous on en a pas et eux ils en ont. C'est des clubs comme Anderlecht notamment, avec des vrais joueurs, avec les joueurs néerlandais qui beaucoup jouaient dans ce championnat. C'était un championnat qui était supérieur au nôtre, et quand on croisait une équipe belge en Coupe d'Europe, déjà qu'aujourd'hui c'est pas toujours qu'on gagne, mais à l'époque on gagnait pas. Je crois même qu'avec Nantes vous aviez pas galéré contre une équipe belge à Lokeren.
Oui, à Lokeren, on avait galéré.
Perdu,
je ne sais même pas si on s'est qualifié.
Non, on n'est pas qualifié, je crois.
Je pense qu'on était. Ouais, mais on ne s'est pas qualifié comme souvent. Mais c'est vrai que, comme le disait Daniel, c'est avec la Belgique sur le papier avant ce match, et même les années qui précédaient et les années d'après, était une équipe redoutable avec des qualités individuelles de joueurs que vous avez cités, qui étaient fabuleux. Hein.
Bon, attention, l'équipe de France, c'était pas rien non plus, hein. Parce que là, j'ai par exemple la compo face à la Belgique. Bon, bah, pardon, il y avait quand même du lourd. Je vous la refais vite fait. Bon, Bats dans les buts, défense, Battiston, Bossis, Domergue,
Louis, le joueur arrière droit,
Fernandez,
Louis, voilà, ouais. Gengini, Giresse, Platini, Tigana, et puis Six, Lacombe, et le dernier que je n'ai pas donné.
J'ai tout dit. Bah oui, s'il y avait quatre au milieu, il y avait deux attaquants.
C'est ça. Voilà. Et Michel Blanc, j'ai Michel Platini que j'ai pas cité.
Si, tu l'as dit.
Bah, si,
Michel Platini, oui, c'est un petit
ressorti.
Intéressant la position de Platini pendant l'Euro 84, parce qu'il marque, il finit à 9 buts. donc meilleur buteur de l'Euro. 9 buts en 5 matchs, hein, parce que en gros, il est et en fait, il était
c'est
quand
un record qui sera très très dur à chercher, je pense. Hein.
Il était très offensif. Aujourd'hui, il y a le débat sur Mbappé en 9 et tout là, au Griezmann, comment, où est-ce qu'on le met? Platini, bon, en fait, il était devant, quoi.
Ouais, il était devant. C'était un 9,5, un 10 à la base. Hein. Mmh. C'était pas un attaquant de pointe. Il n'en avait pas toutes les qualités, mais il était tellement adroit qu'il pouvait éventuellement jouer un peu plus devant. En plus, bon, l'équipe jouait aussi pour lui. Et des joueurs très offensifs comme Gires, Gengini, avant notamment, se permettaient de revenir défendre pour lui donner le ballon dans les meilleures conditions. Et donc, on savait très bien, surtout en 84, où c'était la première compétition. Il n'avait pas de petites blessures. Il était au summum de sa force et donc de sa forme aussi. Et donc, il fallait éventuellement le mettre dans les meilleures conditions. Mmh.
Toi, Max, tu étais considéré quand même à l'époque et très justement un des meilleurs défenseurs au monde. Rappelons quand même que tu viens de l'école nantaise et qu'à l'époque, oui, ça voulait dire quelque chose. On parlait tout à l'heure de deux Zerbi qui arrivent à l'OM, donc des styles de jeu. C'est des débats qui animent beaucoup les connaisseurs. À l'époque, il n'y avait pas d'émission comme la nôtre. Il y avait un journal qui parlait de foot et les débats sur le jeu. Il y en avait peu. Néanmoins, autour de Nantes, il y avait véritablement un mouvement d'appréciation du style que vous aviez. Ça t'a marqué évidemment parce que tu étais un défenseur qui n'hésitait pas à dépasser sa fonction. On le voyait en équipe de France et encore plus avec Nantes. Ce serait bien si tu nous rappelais à l'époque comment vous étiez perçu.
Oh, c'était l'époque pour les nostalgiques supporters nantais du fameux jeu la nantaise où on pouvait allier le plaisir de jouer ensemble également les résultats. Alors un petit peu moins malheureusement au niveau européen, mais au niveau national où on a été plusieurs fois champion, terminé souvent second quand on ne l'était pas. Et c'était surtout le plaisir de démarquer le partenaire, de penser d'abord aux autres, aux coéquipiers avant de penser à soi, ce qui n'empêchait pas quelques actions individuelles. Et me concernant le rôle des arrières latéraux avec Arribas et surtout après Suedo et Jean-Vincent, il y a eu un changement dans ces années 70 et milieu des années 70 où auparavant les latéraux, dans les petites équipes, par exemple, on les mettait souvent à ce poste-là parce qu'ils étaient pas bons techniquement. Et on nous disait, même au niveau professionnel, une fois passé le milieu de terrain, c'est fini, vous donnez le ballon et puis vous vous replacez pour marquer l'attaquant. Et donc, il y a eu vraiment un changement. Pendant quelques années, on a été quelques Français, et j'ai cette fierté-là, à changer un peu le rôle de latéral. Et puis, il y avait également de très bons latéraux dans d'autres équipes. Je pense à Cabrini, à Junior, le Brésilien, à Kals, évidemment, en Allemagne. Et donc, ça a été... c'est une belle période où le poste a vraiment changé en 5-10 ans.
Oui, tu n'étais pas le seul. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de latéraux qui montaient comme ça.
Mais il y avait Jean-Vion, Baptiston en France, Amoros après. Il y avait les Nantais, Tussaud et Ayash. Et donc, c'était vraiment des joueurs qui étaient capables de faire autre chose, qui savaient défendre, mais qui pouvaient faire aussi autre chose et aider l'équipe dans le jeu à la nantaise de l'époque.
Walid Acharchour, qui aurait pu être le fils de Maxime Bossis.
Oui, en parlant de jeu, je regarde les années, là, c'est l'année de naissance de mon père sur les joueurs. Donc, Maxime, je voulais te poser la question sur le jeu, pour faire une transition, par rapport au football actuel et par rapport à notre équipe de France. Qu'est-ce que tu penses, toi? La 84 était une référence. Nous, on a eu une transmission sur le carré magique de 84. Est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de France, qu'est-ce que tu penses de ce qui se produit sur le terrain? Est-ce que parfois t'es frustré un peu comme nous ou non?
Parfois, je suis frustré, évidemment, si je me réfère à ce qui se passait il y a 20-30 ans, ou la génération, parfois aussi, 98-2000. Mais il faut d'abord, aujourd'hui, dans un football qui a beaucoup évolué, penser aux résultats, être pragmatique, à l'image du sélectionneur Didier Deschamps. Et donc, je pense qu'il utilise les joueurs de la meilleure façon qui soit, avec des joueurs capables de faire la différence quand il y a de l'espace. Je pense à Dembélé, à Mbappé. Et donc, c'est un jeu, je crois, qui convient très, très bien à l'équipe de France, qui n'est jamais plus dangereuse que quand, parfois, elle laisse venir l'adversaire, parce qu'en deux ou trois passes, elle peut aller au bout et faire parler la poudre et marquer. Donc, au niveau du jeu, j'aimerais retrouver ce que j'ai retrouvé avec la Grande Espagne il y a quelques années, avec même l'équipe de France des années 80.
Oui, parce que c'est
2000.
Ton identité de jeu, c'est ça. Et le pire, c'est que Deschamps, il vient de là, hein, on oublie. Nantes, on oublie trop souvent que Deschamps, il vient de Suedo, hein.
Bien sûr, il vient de Sodor, mais il a pu acquérir très très vite la culture de la victoire. Il est parti jeune de Nantes, joueur, il a absolument tout gagné. Après, il est parti aussi en Italie, et donc il a persévéré en tant qu'entraîneur. Et pour lui, la victoire compte plus que tout. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'aime pas le beau jeu. Qu'on arrive de Nantes, qu'on a été formé à Nantes, forcément qu'on aime le beau jeu, mais seulement il l'adapte aux joueurs qu'il a avec leur qualité. Et parfois, peut-être aussi un petit peu leur faiblesse technique pour certains.
Je pense que la Juve est là au final beaucoup plus marquée que Nantes, mais bon, après, chacun oui. c'est, chacun oui, c'est sa référence, quoi.
Maxime, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la défense de l'équipe de France? Les latéraux, les défenseurs centraux, quand vous les voyez, vous dites bon, c'est du niveau mondial de ce qu'on avait à l'époque en 84, ou alors vous avez des doutes?
Des doutes, non, parce que ce sont tous des joueurs costauds, même si certains ont eu des saisons compliquées. Par contre, il ne se dégage pas forcément une défense type. Mmh. Il y a toujours, il y a Upamecano dans l'axe qui, malgré quelques soucis, va rester.
Aujourd'hui, on parle de Saliba. Mais il paraît que Saliba pourrait être titulaire.
On parle voilà, on parle de Saliba qui a marqué des points lors du dernier match ou des derniers matchs par rapport à un Kanté. Théo Hernandez n'est pas si mal, mais il y a aussi Fernand Mendy. Donc on a de la peine quand même à dégager une défense type, ce qui n'est jamais très très bon, mais on n'encaisse non plus, on n'encaisse pas beaucoup de buts malgré tout.
Dans quelques instants, Maxime, on aura Nicolas avec nous. Il a lu le livre et il veut intervenir. Et puis on reparlera de l'Euro 84 encore pendant quelques minutes. On se retrouve tout de suite dans l'After.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
22h52, Walid Acher sur Daniel Riolo et Maxime Bossis avec nous ce soir pour parler de l'Euro 84 et de son livre Le Grand Max, et donc aux éditions Nouvelle Source. Maxime est là et Nicolas nous rejoint au 32-16. Nicolas, supporter nantais, bien sûr. Salut Nicolas.
Bonsoir à tous, bonsoir Walid, Daniel, Gilbert et bien sûr Maxime.
Salut.
T'as quel âge, bonsoir. Nicolas?
J'ai 27 ans.
Et t'as lu le bouquin Le Grand Max?
Oui, j'ai rencontré l'auteur à Montaigu en Vendée et on a parlé, et puis j'ai adoré le bouquin. Je l'ai dévoré et il se lit très très vite.
Alors qu'est-ce que t'as retenu de principal dans la carrière de Maxime Bossis?
Déjà, la succession, il a connu que des grands entraîneurs et j'ai l'impression qu'il a connu plein de cadres d'entraînement différents. Quand il parle de l'arrivée de Suodo avec des entraînements différents, il a dû s'adapter. Quand il parle du Matra, j'ai l'impression qu'il a vraiment su s'adapter à tous les gens qu'il a eus. Et déjà, en préambule, je voulais juste dire que j'ai entendu deux personnes, mon père et Luis Fernandez, dire qu'on n'a jamais fait mieux en latéraux d'équipe de France qu'à Amoros Bossis.
C'est vrai.
Quand on fait les équipes des décennies, etc.
Ça, c'est vrai, je confirme.
Moi, la dernière fois, on a fait le spectacle de l'after. Hein.
Ouais.
J'ai dû revoir un peu Brésil-France en 86. Amoros, mais il m'avait choqué. Parce que Daniel, à chaque fois, il m'en parlait.
Match, ce jour-là.
Et tout le monde disait c'est le meilleur latéral de l'histoire de l'équipe de France.
T'as les deux.
Après,
quand Amoros est arrivé, ouais. Max jouait déjà dans l'axe. Il n'était plus latéral à ce moment-là. Ouais.
Et j'avais juste une question. C'était beaucoup par rapport à Hidalgo. Parce que je trouve que dans le livre, on a beaucoup de témoignages aussi d'autres joueurs de la relation qu'il y avait avec Hidalgo. Et je me demande à quel point ça a pu compter en 84 dans les résultats de l'équipe, à quel moment ça a compté. J'ai l'impression que la relation était vraiment spéciale humainement avec ce sélectionneur.
Oui, vraiment, il avait des qualités humaines au-dessus de la moyenne. Et c'était le premier sélectionneur aussi à faire confiance aux joueurs français, à nous responsabiliser, sans vouloir absolument copier ce qui se faisait de mieux en Europe, les Allemands, les Hollandais ou d'autres équipes. On n'avait pas les mêmes qualités athlétiques ou physiques qu'eux, mais par contre, on avait des qualités techniques. Et il nous disait toujours qu'on n'avait pas à rougir de ce qu'on pouvait faire. Et le cheminement a été long, hein, parce qu'on sortait d'une période compliquée avec l'équipe de France qui, depuis l'Angleterre, en 66, n'avait absolument rien fait. Et donc, de 78, la première Coupe du Monde à la dernière au Mexique en 86. Donc, la grande réussite, ça a été la réussite de Michel Hidalgo. Et pour lui, on voulait vraiment terminer sur une belle note, parce qu'il avait annoncé qu'il terminait sa carrière de sélectionneur après l'Euro 84. Et si on a gagné, c'est certainement 50% grâce à lui. Il avait des qualités humaines, un discours paternaliste qui peut-être ne passerait pas aujourd'hui, mais qui nous mettait toujours, qui mettait toujours en avant les privilèges qu'on avait de représenter l'équipe nationale, représenter la France, et de savoir que beaucoup de joueurs voudraient être à notre place. Donc toujours ce sentiment qu'on avait d'être privilégié et essayer aussi d'enlever la pression qui pouvait être négative. Donc ça a vraiment été un deuxième père pour nous tous, et on avait des relations plus que cordiales, des relations d'amitié en même temps que des relations joueurs-sélectionneurs.
Il était quand même beaucoup plus sympa que Coco.
Ah, il était différent. Alors Coco était très sympa, je m'entendais très bien avec lui, on s'est engueulé quelquefois.
Ah, quand même.
Il avait un sale caractère. Ça, pour ça, il le reconnaissait.
Les gens doivent pas se souvenir, mais bon, évidemment, c'était un génie du jeu, c'était aujourd'hui les entraîneurs genre Luis Enrique, Guardiola. Mais de la même façon qu'eux, aujourd'hui, mon Dieu, que c'était impossible de lui parler, de faire une interview, et qu'est-ce qu'il était chiant.
Aujourd'hui, il serait en difficulté.
Au niveau de
la communication vis-à-vis de vous, les journalistes.
Oh là là.
Oui, parce que pour schématiser, il faisait comprendre aux journalistes que ils comprenaient que dalle, donc c'était même pas la peine de venir lui parler.
Mais tu te souviens, la campagne Ligue des Champions, de Nantes, ça doit être 95, donc après qu'ils soient champions, et ils vont quand même en demi. Donc elle est longue. Je pense que l'homme de TF1 qui fait les questions au bord du terrain, ça doit être pro. Et pourtant, il se connaissait. Parce que Pascal est grand supporter du FC Nantes. Hein. Mais c'est même pas qu'il le traite comme une serpillière. Mais c'est dément de répondre comme ça. Quand on parlait de Luis Enrique toute l'année, là, quand je disais...
C'est pire que Luis Enrique ou...
Ah, franchement, c'est pas loin. Vraiment.
Je connais pas Luis Enrique, mais bon, il avait de grosses qualités, mais il était d'une exigence totale. Et parfois, bon, il faut bien le reconnaître, un petit peu maladroit aussi, psychologiquement.
Ce petit air après, qu'il avait, moi, posait la question, et puis il regardait, il faisait un silence de 2-3 secondes, il disait, oui? Mais genre, t'as compris ça? Non, mais oh là là, mais bon, c'est vrai qu'il faisait jouer mais un jeu.
C'était vraiment un génie. Hein.
Oui, c'est vrai.
Lui, c'est un vrai génie.
Ouais. je pense qu'il fait partie des tout meilleurs.
Après Max, il y avait un truc, un défaut qu'ont ce genre de coach-là, et je m'engueule avec Walid sans arrêt là-dessus, c'est le côté dogmatique, et c'est pour ça que moi, il y a un truc qui m'énervait des Nantais, c'est qu'en Coupe d'Europe, vous preniez des claques tout le temps. Parce qu'ils voulaient jamais s'adapter à certains jeux, ils voulaient garder ses principes, et en Coupe d'Europe, vous avez morflé contre des équipes qui étaient largement à votre portée, hein.
Ouais, enfin, on perdait souvent quand même contre les équipes italiennes ou de grosses équipes, voire espagnoles.
Ah, le Lokeren, il est pas beau.
Mais c'est vrai qu'on a pas eu la carrière qu'on aurait pu avoir au niveau européen. Ça, c'est sûr. Contrairement aux Stéphanois de la grande époque.
Mais ça n'empêchera pas que ça restera une référence. Oui, moi, Coco Swodo, à chaque fois, on dit Coco Swodo.
Alors, c'est vrai qu'on conclut sur l'Euro 84 quand même. Ceux qui ne connaissent pas le parcours, allez voir, vous avez tout, hein, Wikipédia, YouTube, Festival Platini qui marque 3 buts contre la Yougoslavie à Saint-Etienne, du droit, du gauche, de la tête, bref, la demi-finale contre le Portugal, le renversement de situation, la finale avec l'Arconada. S'il y avait une image que vous deviez retenir, Maxime, de l'Euro 84, ce serait quoi?
Le France-Belgique, c'est à la Beaujoire, je joue encore à Nantes, c'est un quart d'heure de chez moi, il y a 55 000 spectateurs, c'est le record absolu, il fait beau, il fait 35 degrés, et on marche sur l'eau, on gagne 5-0, et donc c'est vraiment devant la famille et les amis, et donc c'est vraiment ce match-là, cette grande image.
Avec un but de Gires magnifique, petit piqué.
Et moi, Max, Louis, à chaque fois qu'il parle de toi, c'est toujours dithyrambique. Et à chaque fois, il me parle d'un match. Il me parle d'un match que j'ai jamais réussi à revoir. À l'époque, la Coupe de France se jouait en match aller-retour. Et il y a un match au parc. Je sais plus quel est le score à l'aller à Nantes. Et il y a un match avec une tonne de buts. C'est Georges Péroche qui entraîne le PSG. Et donc, ça doit être Coco qui doit être sur le banc de Nantes. Et c'est hyper spectaculaire comme match. Et il me dit ce jour-là, Bossis, il a fait un match, mais il joue à tous les postes. Tellement, je sais pas si tu vois de quel match il parle en Coupe de France en aller-retour.
Il parle pas de la finale 83.
Ah non. Bah non, si c'est la finale, 83, je me souviendrai.
C'est un autre match, aller-retour.
Mais qui était en aller-retour. Ouais. Je sais pas, bon.
Sincèrement, je me souviens pas de
ce match. Parler de ce match-là qui était vraiment très très spectaculaire.
Ouais, mais il est gentil, Louis, ça va avec moi.
non, il est juste.
Bon, finalement, le seul problème de votre carrière, c'est que vous avez joué dans un club qui avait la mauvaise radio sur son maillot.
Desquels?
C'est vrai. On n'était pas les seuls à avoir la mauvaise radio. Il y avait aussi Lens qui avait la mauvaise radio.
C'est vrai. Bon, c'est pas grave.
Non, tu sais, le gros.
La prescription. Ouais.
En même temps, c'est devenu un maillot mythique, tu sais, pour les, dans les magasins vintage et tout. Le Nantes avec le Europe 1, il fait partie des maillots.
Ah, c'est le maillot, c'est le maillot le plus recherché.
Ouais, c'est vrai.
Nous, on avait RMC à Marseille, à Monaco, mais voilà, c'était pas la même chose.
Ils étaient sur énormément de maillots.
Évidemment. Ils sont vernis avec RMC.
Maxime, merci, c'était très sympa de commémorer ce Euro 84. Donc le livre, c'est Le Grand Max aux éditions Nouvelle Source, et je remercie également Nicolas au 32-16. Merci Maxime, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Dans un instant, l'Euro 2024.
Ah, je voulais dire un dernier mot sur Coco Ciodo.
Vas-y, vite fait.
Pour qu'on comprenne. En 2010, avec Christophe Payet, on fait le livre Secret de coach. Il suffit de voir qu'il y a dans le bouquin les coachs de l'époque. Tu as de Van Gaal, Ancelotti, machin. Et en fait, à chaque fois que j'en appelais un, je disais, mais tu sais, on a un tel. Oui. Ciodo, je pense que je lui parlais 4 fois au téléphone. Chaque fois, il me disait, je suis dans mon potager, ça m'était longtemps à répondre et tout. Et je disais, bon, alors, on va la faire cette interview parce que j'ai quand même un tel. Ouais. Bah, rappelle-moi la semaine prochaine et on va voir.
Et on avait rien à faire.
On avait rien à cirer.
Toi, tu mettais en avant pour dire c'est bien des diètes parce qu'il y a tout le monde.
Il y a tout le monde dans l'huile. Tu allais dire oui quand même.
Il n'avait rien à fiche.
Et il l'a pas fait. Et il a fini par bâcher définitivement à force de repousser.
Et il l'a pas fait ?
Non, il l'a pas fait.
Ah oui.
Il s'en foutait de savoir que tout le monde disait oui et tout. Il dit, oh,
mais c'est bien, ça reste quelqu'un
potager.
Au moins d'authentique et il en avait rien à faire.
Bien sûr. Je t'avoue que ça m'a un peu gonflé quand même.
Allez, dans un instant, l'Euro 2024, bien sûr, avec les dernières infos. Et puis l'actu PSG du Mercato également. Enfin, l'actu Mercato du PSG plutôt. Je remets les mots dans l'ordre. Avec une info importante, notamment la priorité de Lucien Riquet. Je vous dévoile ça dans quelques minutes.